Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. Élodie est une jeune femme passionnée. Elle vient de mettre le mot fin cet été à un roman feel good qui parle d'amour, de rêve, mais pas que. Une chose est sûre, elle ose et elle écrit sur la vraie vie, sans tabou. Qu'est-ce qui fait qu'après l'écriture journalistique, elle a décidé de passer à l'écriture qui fait sourire ? Quelles sont les prochaines étapes qu'elle envisage maintenant que l'histoire est terminée ? On parle de tout ça avec elle. Belle écoute ! Salut Élodie !
Coucou Héloïse !
Élodie, Héloïse, on est les deux Hello là ! Comment vas-tu ?
Ça va bien et toi ?
Ça va. Ça fait un petit temps que j'ai envie de t'inviter ici.
Il paraît.
Parce que la petite histoire, c'est que j'ai accès à ton manuscrit et on va un petit peu en parler parce que j'ai des questions à te poser par rapport à justement c'est quoi cette histoire et comment tu écris. Donc pour commencer, Élodie, tu écris ?
J'ai toujours écrit. Depuis que je suis toute petite, j'écris. Écrire, c'est un loisir, c'est un hobby, c'est mon métier aussi maintenant. Donc Oui, j'écris et je pense important d'essayer d'oser dire... J'écris quelque chose.
Ouais. Est-ce que tu l'as déjà dit souvent, ça, autour de toi ? Est-ce que c'est quelque chose qui sort assez facilement, j'écris ?
Ça a toujours été perçu autour de moi, ça fait partie de moi, en fait. C'est aussi moi qui écris des discours aux anniversaires, ou aux enterrements, ou au courrier, ou quand on a besoin d'écrire une lettre, un CV, une lettre de recommandation, c'est toujours vers moi, dans mon cercle d'amis, même dans ma famille, qu'on vient. Quoi. Donc je pense que c'est quelque chose, en tout cas d'un point de vue utilitaire, qui est...
Oui, utilitaire. Revenu, ouais. Utilitaire, et en fait, ça va me permettre de faire cette petite transition, parce que professionnelle aussi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui est cette Élodie qui écrit dans son univers actuel ?
Moi, je me suis lancée comme indépendante sous le nom de Comélo ici au début 2021. Et donc, c'est Comélo rédaction et communication. Et donc, une des deux parts, c'est quand même la rédaction et l'écriture, que ce soit pour des réseaux sociaux, des sites internet, des textes divers et variés. Donc, je pense que tu m'as un peu donné l'exemple quand même, il faut le dire là-dessus, qu'on pouvait éventuellement vivre du fait d'écrire. Donc, voilà, quelque chose qui m'a fort boosté en tout cas.
Oui, c'est vrai que... Enfin, déjà, je te remercie de dire que j'ai pu faire partie de l'aventure ou d'une inspiration. Mais ce qui est intéressant, c'est que je t'ai rencontrée... Avant que tu te lances comme indépendante, avant que tu te lances comme freelance dans cette écriture. Et en effet, de fil en aiguille, d'année en année, j'ai vu que tu as vraiment décidé de prendre ça comme quelque chose de très personnel, individuel, indépendant. Et effectivement, je vois que tu as pu créer à la fois ton côté travail, rédaction, écriture. Mais quelque chose qui est venu par surprise à moi, c'est que je te rencontre dans des ateliers d'écriture intimes, créatives. Et qu'un jour, j'apprends qu'il y a déjà un roman. Je ne sais pas s'il est fini à ce moment-là, mais il y avait quand même un roman déjà d'une centaine, 200 pages rédigées. Je me dis, mais petite cachotière, elle ne m'avait rien dit. Alors raconte un peu ça pour commencer, si tu veux bien.
Je ne suis pas là pour te lancer des fleurs, on est bien d'accord. Mais c'est quand même le mot qui délivre qui m'a remis sur le chemin de l'écriture créative ou l'écriture pour soi. Parce que l'écriture, ça a aussi été mon métier avant la rédaction, maintenant, puisque je suis journaliste en presse écrite. Donc, effectivement, c'était mon boulot d'écrire depuis déjà avant. Et j'avais lâché ça pour travailler dans la com. Et quand je suis revenue au mot qui délivre, je suis retournée à l'écriture pour moi. Et donc, j'ai commencé à écrire un roman, effectivement, en 2019, au mois d'août. Je me rappelle super bien, parce que j'étais dans la voiture, on partait en Allemagne avec ma belle-famille. derrière toute seule. Je m'ennuyais, donc j'ai pris mon smartphone et je suis repartie de cette image que j'avais eue en tête plusieurs années auparavant. Et j'ai commencé à écrire sur mon smartphone, dans la voiture, et puis pendant le voyage, quand j'avais un moment de libre, et puis j'ai plus arrêté jusqu'à... Jusqu'à cet été où j'ai quand même posé le mot fin sur le récit, en tout cas.
Super, parce que nous, on se rencontre à l'hiver 2018, hein, si j'ai bon souvenir, dans un magasin de jouets chez l'Olifant, où il y avait un atelier d'écriture sur l'enfance. Et je me dis, waouh, même ça, c'est intéressant. C'était l'enfance, ça reconnecte aussi à ce qu'on fait, qui on est depuis toujours. Et puis, tu me dis que quelques mois après, en été, tu dégaines ton smartphone et tu écris. C'est une belle anecdote. Et en fait, même anecdote, je trouve que c'est dommage de dire ce mot-là parce que c'est plus qu'une anecdote, c'est le point de départ de quelque chose. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui se passe à l'arrière de cette voiture? Parce que c'est pas anodin. En voyage, déjà, il faut réussir à écrire ou à lire. C'est déjà un tour de force pour moi. Et qu'est-ce qui fait que quand tu as ce smartphone en main et que ça tapote sur le clavier, qu'est-ce qui fait que tu te sens... cette inspiration d'écrivaine, d'autrice, ou c'est juste je fais un truc, comment tu te sens?
Je crois que les mois précédents, je me suis beaucoup concentrée sur ma famille, surtout de moi, parce qu'on a eu un décès dans ma famille proche, donc j'étais fort préoccupée par ça. Et donc j'ai écrit tout de suite sur ce décès, parce que j'en avais besoin pour moi, en écriture thérapeutique. Et puis je pense que ça a été en fait un des premiers moments où j'ai eu l'impression de me retrouver vraiment finalement avec d'autres personnes dans cette voiture, mais confrontée seule à moi-même et avec la possibilité de le faire. Et ça a paru vraiment comme ça, quoi, comme si enfin tout était juste au moment et que tout devait sortir à ce moment-là. Et chez moi, l'écriture a toujours été très fluide. Donc
je confirme. Et rapide et nette et claire et efficace d'emblée.
Et donc je ne choisis pas en fait... d'écrire à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui s'impose naturellement, quoi.
Ah oui. Oui, c'est intéressant parce que avec l'expérience et mon vécu personnel et ce que je vois aussi autour de moi chez des auteurs et des autrices, c'est que quand ça vient naturellement et qu'on se rappelle qu'il y a ça en nous, en fait tout est juste et c'est le signal, hein. C'est pas d'où il vient, mais c'est le signal, vas-y cocotte, quoi, fonce. Je me permets une petite question qui est peut-être un peu plus... qui est peut-être un peu fouillée un peu plus dans ton intérieur, mais tu évoques un décès. Est-ce que tu as pu établir tout de suite directement un lien de cause à effet entre... on vient de traverser des mois compliqués parce qu'il y a quelqu'un qui n'est plus là. Est-ce que tu vois ça comme... c'est-à-dire reçu un message ou t'as reçu quelque chose par rapport à... remets-toi vraiment dans l'écriture pour toi?
Pas nécessairement, non, pas spécialement. Je pense que c'est vraiment venu comme ça, parce qu'après, même s'il y a un rapport à la mort qui est présent dans le livre, parce que je pense que c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là, donc forcément, ça revient, mais je pense que c'est pas conscient directement, parce que le début de l'histoire ne parle pas de ça en particulier. Alors effectivement, il y a un personnage qui est décédé, mais c'est pas le cœur de l'histoire, donc je pense que c'est pas quelque chose en tout cas qui était conscient, que c'était lié particulièrement à ça.
Mais ça, tu évoques dans l'histoire, on va y venir, hein, tu peux un peu peut-être lever le voile sur certaines choses, pas tout non plus, mais dans le livre, effectivement, il y a un personnage qui a perdu un être cher, et du coup, tu as été quand même un peu puisé là-dedans, enfin, il n'y a pas de hasard non plus, je me dis que quelque part ça intervienne dans l'histoire, c'est quelque chose qui a pu te nourrir pour au moins dresser certaines scènes ou...
Oui, ça, c'est clairement les sentiments que j'ai ressentis quand j'ai appris le décès, donc c'est mon beau-frère. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier, ce genre de choses, la douleur qu'on a ressentie à ce moment-là et dans les jours après. Et donc oui, c'est quelque chose qui forcément se retrouve présent. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que ça peut se retrouver présent dans l'ouvrage. En tout cas,
oui. Pour repasser dessus en relecture manuscrit, oui, on voit que c'est très vraisemblable, ça prend vraiment aux tripes. Et je vais me permettre du coup d'envoyer l'autre versant de la médaille de ce roman, et tu vas peut-être du coup m'aider à un peu compléter ça. Ce roman en fait n'est pas sombre du tout. Là, on est entré par cet aspect-là, on a ouvert la porte pour aller dans cet élément-là de l'histoire, mais en fait, ton roman, c'est un roman feel good. On peut le qualifier ainsi?
Oui.
Alors explique-nous un petit peu le choix du genre, feel good, pourquoi selon toi?
Oui, effectivement, on entrait par une porte un peu plus triste, mais c'est pas du tout l'esprit du roman, faut pas, penser ça, effectivement. Pourquoi un roman feel good? Je vais un peu me répéter là, mais de nouveau, en fait, c'est pas un choix, c'est juste... ça s'impose comme ça, mais sûrement parce que c'est ce qui me nourrit aussi. Moi, j'aime beaucoup les histoires qui se passent bien, j'aime beaucoup m'évader. Donc Voilà, c'est quelque chose qui se nourrit. C'est parfois un genre qui est un peu galvaudé, parce que c'est pas super autobiographique, c'est pas super récit méga émouvant. Mm-hmm. C'est parfois un peu mal perçu, mais entrer dans une librairie maintenant, c'est quoi le premier rayon, vous voyez ? C'est ça.
Totalement, donc, oui.
C'est que ça fait du bien, c'est que ça plaît, et c'est pas un choix conscient d'écrire un roman feel good, c'est juste que moi, ça me fait du bien, et que ça peut faire du bien à d'autres. Pas.
Oui, oui, oui. Et puis quelque part, moi je vois ça vraiment avec du recul maintenant, après un an et demi de pandémie et puis des crises qui se succèdent, comme cet été, encore d'autres. C'est pas étonnant justement que ce soit la première chose qu'on voit en tête de gondole dans la librairie, c'est qu'il y a aussi une volonté de certaines personnes de trouver, d'aller chercher cette légèreté. Et si toi en tant qu'autrice tu peux prendre ta plume et nourrir ça, j'imagine que c'est quelque chose qui te plaît ou qui te parle.
Ah ben c'est jouissif quand même, quand j'ai mon premier panel de 3-4 lectrices et qu'elles me disent que bah, dans une passe difficile, ça leur a fait du bien, ou que je vois des commentaires qu'elles m'ont laissés, qu'elles ont rigolé. Donc quand toi tu le lis et que tu me dis aussi que voilà, tu apprécies, en tout cas ça te fait sourire, bah, forcément pour moi c'est gagné, parce que le but c'est de pouvoir partager des émotions, et quand on écrit du feel good, donc c'est aussi de se dire bah, des émotions positives et que les gens se sentent bien en le lisant, en tout cas.
Ouais, tout à fait. Justement par rapport à ce roman, en l'état actuel des choses, où le point final a été posé, on peut le dire, on peut le dévoiler, un grand moment, j'ai pu en être témoin, qu'est-ce qui se passe quand on pose le point final de cette histoire feel good que tu as écrite en 2 ans?
Alors tu sais que je suis quand même quelqu'un d'assez organisé, donc c'est vrai que je suis arrivée en retraite littéraire cet été en disant mon objectif c'est de finir le récit.
Oui, je m'en souviens, j'ai reçu le message.
Et le deuxième jour, sur les 4, c'était fini. Enfin, c'était fini, c'était posé le mot fin en tout cas. Donc c'est clair que c'est hyper satisfaisant, parce que c'est quand même, voilà, il y a quand même plusieurs centaines de pages. Donc c'est un travail de 2 ans finalement. Alors 2 ans,
pas,
ça me semblait.
Pas léger,
c'est
hein.
pas long ou trop court peut-être pour d'autres, mais c'est quand même en fait de se dire, bah en fait, j'ai réussi à finir quelque chose. Mmh. Alors il sera lu, il sera pas lu, il sera publié, c'est une autre question, mais j'ai réussi à écrire une histoire. Du début à la fin, qui est plus ou moins cohérente.
Oui, des choses affinées. Qui tient vraiment la route, hein, franchement. Ouais.
C'est, on se dit, waouh, en fait, j'ai réussi à écrire une histoire. Et donc, c'est une autosatisfaction qui est quand même hyper, hyper agréable.
Ah oui, oui, je peux imaginer. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment avoir fini quelque chose. Parce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent d'abord « je voudrais écrire », ensuite celles qui vont vraiment dans l'écriture. Et beaucoup de personnes écrivent, et en fait, qui sont celles qui mettent vraiment le point final à un projet, c'est encore plus ténu, quoi. C'est comme si on faisait passer des passoires, tu vois, tous les gens qui veulent écrire, deuxième niveau de la passoire, ceux qui écrivent, et puis enfin, ceux qui mettent vraiment le point final sur quelque chose. Donc quand tu parles d'autosatisfaction, je peux que valider ça, et d'imaginer, et puis d'avoir vu, d'avoir entendu le « yes, fini !» Donc c'est vrai que je peux imaginer un sentiment de satisfaction, d'accomplissement peut-être aussi. Qu'est-ce que ça vient dire à la Élodie personnelle? Pas Élodie qui a été journaliste, pas Élodie qui a toujours fait les discours, pas Élodie qui est dans la rédaction, mais qu'est-ce que ça vient dire à la Élodie toute personnelle? J'ai fini une histoire, un roman de ouf, plus qu'une centaine, 300, 400 pages.
Et bien... Ça fait dire quelque chose qu'on a vu en session bibliothérapie, c'était si tu es créative. J'ai toujours pensé que j'étais pas créative parce que je sais pas dessiner, je sais pas peindre, enfin tout ce qui est en tout cas visuel. Mais en fait, ma créativité, c'est les mots. Et donc là, d'un point de vue très personnel, c'est bah si j'ai de l'imagination, j'ai de la créativité. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je pensais pas avoir en moi. Et quand en fait, bah, si c'est là.
C'est ça. Et c'est très présent, parce que pour écrire pendant 2 ans et terminer, c'est très très présent, hein, j'imagine. Est-ce que tu as envie de dévoiler déjà des choses à ce stade-ci de ce roman qui est écrit, qui est terminé, qui est en relecture? Ce qu'on va un petit peu expliquer aussi aux personnes qui nous écoutent, hein, dans le podcast, c'est qu'on s'imagine toujours quand le roman est fini, dans notre idéal de plume, de jeune auteur ou autrice, ou de lecteur et lectrice. On s'imagine toujours qu'on écrit un roman, puis point final, et puis on l'envoie à l'édition. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe concrètement? Le point final, c'est le dernier point final de l'aventure ou pas?
Jamais, c'est le commencement.
Oui.
Je crois que moi, pour moi, dès le départ, ça a été clair que la fin du récit n'était pas la fin de... que le roman n'était pas prêt à publier, en tout cas, en terminant le récit. Donc je savais qu'il y aurait des relectures, qu'il y aurait des corrections, qu'il y aurait des approfondissements de certaines choses. Donc ça, j'en étais consciente dès le départ, je crois. Et donc, c'est ce qui était aussi important parce que ça permet d'avoir un produit fini qui est peut-être effectivement publiable. Parce que 2 ans à écrire un roman, ça veut dire que ce qu'on a écrit au début, ben, on ne se rappelle plus.
Oui.
Honnêtement, il y a des choses que je relis, je ne me rappelle plus. Je rigole moi-même en les relisant parce que je les ai oubliées. Donc ça, c'est hyper, hyper agréable aussi. Donc je ne sais plus quel était le début de ta question.
Non, c'était juste savoir... En somme, comment...
Bah moi aussi,
l'histoire.
Parce qu'on
est... Oui, l'histoire, voilà.
C'est ça.
Et l'histoire de... Est-ce que, à ce moment-là, c'est là, vraiment la fin de l'aventure pour ce projet-là, quoi.
Et donc, l'histoire, pour l'écrire un petit peu, c'est l'histoire de deux personnages, un féminin et un masculin. Et les chapitres sont écrits en alternance avec le point de vue de l'un et puis le point de vue de l'autre.
Voilà,
oui. Voilà, à chaque fois. Et donc, ces deux personnages vont se rencontrer à de multiples reprises et peut-être, peut-être pas, la relation pourrait évoluer, qui sait.
Moi, je sais.
Et ce que j'aime dire au sujet du récit, et tu en as parlé, tu as parlé de la vraisemblance, c'est en tout cas qu'il est le plus réaliste possible. Et donc, je ne souhaite rien édulcorer dans l'histoire, que ce soit au niveau des sentiments, au niveau des faits, au niveau... Je pense qu'on peut tous y projeter, enfin tous y projeter, parce qu'il y a un point de vue masculin aussi.
Oui, oui.
Et que voilà, j'essaie en tout cas d'être le plus réaliste possible, que ce soit au niveau des professions, des personnages, ou au niveau de ce qui se passe entre eux, en tout cas.
Ouais.
C'est quelque chose d'important pour moi aussi. On s'évade évidemment, parce que c'est de la fiction, mais la fiction qui pourrait arriver à tout le monde.
Et puis, en fait, ce que tu racontes comme histoire, c'est une histoire, voilà, a priori simple, dans un monde contemporain qui est le nôtre. Dans l'univers, l'environnement qu'on peut connaître, etc. Et du coup, même si c'est notre époque, comme tu dis, le travail le plus complexe, c'est de rendre tout ça hyper réaliste, hyper vraisemblable, pour justement pouvoir susciter cette capacité de projection, d'identification chez les personnes qui lisent. J'aimerais revenir sur le point de vue masculin, parce que c'est un choix qui a été amené... intuitivement, de manière inductive, et puis après il y a eu cette décision entre toi et moi, et puis que peut-être tu avais eu un peu avant en tête, mais de dire non, on va vraiment explicitement montrer le point de vue de l'homme à un donné, le point de vue de la femme. Comment on travaille le point de vue d'un homme alors? Parce que pour être le plus vraisemblable possible, qu'est-ce que tu fais?
Ça, c'est une super bonne question parce que je me la suis posée, je ne sais plus si on avait discuté ensemble ou pas, mais je me suis dit oui, mais. Est-ce que moi je peux raconter quelque chose au point de vue d'un homme? Je ne suis pas un homme, grande nouvelle. Donc je me dis, est-ce que je peux... Mais après je réfléchis, mais un homme c'est un être humain en fait. C'est un être humain comme nous. Donc c'est pas parce que c'est un homme qu'il n'a pas des sentiments ou des comportements qui peuvent aller même que les miens par exemple. Donc il y a du vocabulaire peut-être un peu plus cru entre potes, un peu moins dans la confidence directe que des femmes par exemple dans certaines scènes.
Oui, des silences.
Oui, des comportements voilà, un peu plus peut-être machistes. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu plus marqué dans le comportement du héros en tout cas. Mais je pense que finalement, je ne suis pas la première femme écrit d'un point de vue d'un homme, et il y a sans doute plein de contraires aussi, donc, donc pourquoi pas, pourquoi pas.
Mais j'ai en tête un souvenir, donc on a un cercle d'écriture avec plusieurs plumes qui écrivent des projets. Je me souviens d'une scène brainstorming, et c'était vraiment par rapport à ce point-là, c'est aidez-moi pour ce mec, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais bon, dans le cercle, c'est que des nanas, donc en fait, je ne sais pas si on était d'une grande utilité, parce qu'il y a eu un brainstorming pour vraiment essayer d'être au maximum dans la vraisemblance et les idées possibles, mais je me dis, c'est drôle, parce qu'au final, c'était que des nanas qui brainstormaient entre elles, mais nourries par des expériences qu'elles avaient quand même réellement vécues. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cet épisode?
Je m'en rappelle aussi. Et en fait, c'était suite à un de tes commentaires où tu me dis, attention, il ne faut pas que le personnage masculin soit trop lisse, trop ken, hein, on pourrait dire.
Trop beau, trop bien.
Voilà, trop... Alors, il faut qu'il ait des défauts, quoi. Donc, en fait, ils apparaissent, hein, ces défauts. Mais il fallait, à un moment donné, qu'il soit un peu plus salaud, on pourrait dire. En tout cas, dans le fil de l'histoire, ça se mettait comme ça. Et c'est vrai que j'ai posé la question donc, aux autres filles du cercle. Et là, je crois qu'elles se sont lâchées.
Tout le monde s'est lâché.
Je pense que c'est pas une des idées, je pense que j'ai retenu finalement, mais c'est clair que ça a nourri. Et donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir en tout cas d'autres points de vue, parce qu'il y a aussi différents degrés. Donc quand l'homme fait quelque chose de mal, c'est pas toujours accepté de la même façon par tout le monde, par certains c'est tolérable, par d'autres non. Donc qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? Parce que si ce mec l'héroïne, faut pas que ce soit quelque chose de trop sale non plus. Donc voilà, tout est dans la nuance. C'est clair que c'est que des femmes, mais c'était hyper, hyper simple.
En tout cas, voilà, c'est un choix que t'as posé. plus ou moins conscient au début et puis consciemment à un moment donné dans le processus, de vraiment avoir ces deux points de vue qui repassent sur des événements et des scènes différentes. Et maintenant, si je dézoome un petit peu, je reviens dans la globalité de l'histoire. Il y a un mystère, parce que le titre, je ne sais pas, c'est à toi de voir si tu le révèles ou pas ici, mais en tout cas, le titre du roman évoque déjà qu'il y a un mystère. Et donc, ça crée pas mal de scènes, de quiproquos, de recherche aussi, de méfiance entre ces deux personnages, pour au final, on sent quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer entre eux. Donc, est-ce que tu acceptes, est-ce que tu valides la notion d'histoire d'amour? Est-ce que tu racontes une histoire d'amour ou est-ce que c'est juste quelque chose dans le reste de l'histoire qui intervient?
C'est clair que le mystère, c'est la scène de départ. C'est la scène qui m'était venue en tête plusieurs années auparavant et qui m'a inspirée. C'est la scène de départ. Et donc, le titre, c'est « Derrière le rideau ». Voilà, donc on se demande un peu ce qui se passe derrière ce rideau. Et, donc,
et qui n'a pas envie de savoir ce qui se passe derrière le rideau de certaines maisons ou immeubles, quoi.
Exactement. Et donc, le personnage masculin, Baptiste, lui, sait très bien ce qui s'y passe. Et Léonore, elle se questionne là-dessus. Et donc, c'est vrai que c'est un peu le fil rouge du roman, mais ce n'est pas l'élément principal. C'est quelque chose qui revient ponctuellement. Mais pour moi, l'histoire principale, c'est effectivement l'histoire romancée, en tout cas, entre Baptiste et Éléonore, qui se tissent au fil des pages. Oui, c'est une histoire d'amour, clairement. C'est clair. Qui n'a pas envie de lire des histoires d'amour? Peut-être pas tout le temps, mais tout le monde, à un moment donné, a envie de se projeter dans une histoire d'amour.
Ouais. Et moi, je te le dis, je te l'ai déjà dit en coulisses, mais je te le redis, ça m'a vraiment rappelé, oui, à quel point on a besoin de lire ou d'entendre des histoires d'amour aussi. En relisant ton manuscrit, en discutant de scènes et de réflexions que j'ai eues avec toi, je me dis, mais c'est vrai, quoi. On écrit sur des choses sérieuses, on écrit sur des choses autobiographiques, des enjeux, des débats, etc., idéologiques, et puis ordonnés. Non, il y a aussi... ça fait du bien, quoi. Et moi, effectivement, j'étais dans un autre projet d'écriture, avec des choses un peu plus, voilà... dense à certains égards, et de revenir sur ton manuscrit, de me dire, mais je ne lis plus ce genre de littérature, et en fait... C'est bon, quoi. Ça amène tellement de choses qui font plaisir. Ça remet aussi dans des états émotionnels, voilà, de ces premières fois, de ces premières rencontres, de ce jeu de séduction, de teasing, etc. Et toi, tu assumes vraiment ce côté « j'écris des histoires d'amour » où tu t'es posé la question « je le dis, je le dis pas ou... ».
Si, moi, je peux le dire, c'est de la lecture de plage. Je pense qu'on peut le dire, et c'est pour ça que je pense que ça correspond à
beaucoup. Mais c'est pas péjoratif, en fait.
Non, ça veut dire que c'est de la lecture qu'on a bon de lire. J'espère, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai envie de donner, qu'on a bon de lire, qu'on avale des pages assez facilement. Et donc, oui, si, c'est... tu as parlé de jeu de séduction, c'est vraiment quelque chose qui... Tu le vois au moment de récit où tu en es maintenant dans la lecture, que c'est vraiment quelque chose qui va... C'est vraiment un jeu qui aura, à un moment donné, entre les deux personnages. Donc, c'est aussi assez agréable d'avoir ce côté jeu dans l'histoire. Et oui, on a parlé potentiellement de publication. Il y a deux périodes de publication. Il y a... Dans l'année, il y a mai-juin et octobre-novembre. Moi, je dis, mais moi, je suis sur mai-juin. Moi, je suis de la lecture de plage.
C'est ça, oui. Mes objectifs sont fixés, quoi. C'est clair. Et oui, parce que là, effectivement, en plus, moi, j'ai lu beaucoup en été et ça se prêtait bien, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui se prête vraiment bien à l'état d'esprit un peu nonchalant, justement, la légèreté qui vient avec l'été, le moment aussi. Lecture de plage, dans ma tête, c'est pas péjoratif dans la mesure où, en fait... beaucoup de personnes que je vois en formation de bibliothérapie ou même avec lesquelles je discute au club de lecture, au slow reading, etc., qui ne se souvient pas d'un super bon moment de lecture en vacances, tu vois, hamac, au bord de l'eau, sur un banc, dans un parc. Et c'est, je pense, typiquement ce genre de livre aussi qui intervient dans ce cadre-là, quoi. Donc, toi, tes objectifs, ils sont fixés, quoi.
Peut-être. c'est le... J'ai encore besoin, je pense, d'une validation par rapport à la nature même du récit. Est-ce que c'est publiable ou non? Alors, j'ai dit récemment à une copine que tout était publiable.
Oui, non, mais c'est ça, bien sûr.
Mais on a besoin qu'autour de nous, on ait des retours positifs, des premiers retours qui nous disent, bah oui, et pas nous envoyer au casse-pipe, peut-être se lancer dans de l'édition ou dans de l'auto-édition et pour vendre 4 bouquins, je veux dire, ce serait dommage pour l'ego.
Une vraie aventure, en plus. Pour l'ego et puis pour l'investissement, qu'il soit émotionnel, en termes de temps, d'énergie, même financier, qu'on peut éventuellement mettre dans un projet. Et justement, quand tu as déjà un panel de 5 bêta-lectrices, que tu as un retour d'une coach littéraire, ma question, elle n'attend pas une réponse spéciale, mais tu mets où le baromètre de ta validation, de ta légitimité aujourd'hui, hein, pas il y a un an, pas il y a deux ans, en toute honnêteté, je ne vais pas dire entre toi et moi parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vont nous écouter, mais...
C'est super dur. Non, je pense que oui, je suis prête pour la publication parce que j'envisage, parce que j'ai pas dormi avant-hier en pensant au plan de com que je pourrais mettre en place autour de ça.
Parce que là, il y a la rédactrice qui revient et la stratège.
Oui, clairement. Mais donc si moi j'ai envie de le publier, la question c'est surtout sous quelle forme.
Ouais.
On sait que la maison d'édition c'est quelque chose qui rémunère peu l'auteur et qui finalement il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est la bonne forme ? Et la question de l'auto-édition, c'est la question du financement qu'il faut apporter, enfin, personnel qu'il faut apporter en amont pour pouvoir faire de l'auto-édition et de l'énergie que ça prend.
Dans les deux cas de figure, hein, que ce soit un processus où tu rentres dans un trait avec une maison d'édition ou que tu te lances dans l'auto-édition, du temps et l'énergie, c'est sûr que tu te prépares à ça pour l'été 2022 ?
J'essaye. Après, c'est vrai que du coup, l'édition, ça apporte la validation. Et à contrario, si on est refusé dans des maisons d'édition, ça peut aussi blesser l'ego.
Ouais.
Donc le fait d'entrer dans l'auto-édition, ça peut être de se dire personne ne va me dire non, donc je peux le faire. Donc c'est vrai que je suis en questionnement en même temps que je suis dans la réécriture du roman avec sur le conseil de ma bêta lectrice. C'est le questionnement. J'explore toutes les pistes en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de le partager.
Ça, c'est essentiel. Du coup, moi, c'est à ça que je pense. Je songe à ça. Je me dis, au final, il y a l'accomplissement d'avoir mis le point final. Et puis, on envisage le livre-objet, le livre que quelqu'un aura dans les mains. Quelle serait la définition de l'accomplissement, voire même du succès ? Qu'est-ce que tu mettrais derrière ces mots-là ? Peu importe le cas de figure qui se présente à toi, édition, auto-édition. Comment tu envisages ce sentiment d'accomplissement, de succès ? Avec ce que tu mets dedans, en t'imaginant qu'il y a quelqu'un qui l'a en main et qui le lit, comme ce que font déjà un peu tes bêta lectrices maintenant. Comment tu as cette image d'horizon là devant toi ?
Je pense que l'accomplissement il est double. Il est en termes de quantité et de qualité.
Mm-hmm.
Donc en termes de quantité, c'est clair que le succès c'est quand tu as vendu x centaines, x milliers de livres. Alors moi je l'ai dit clairement la semaine dernière, je dis moi je publie pas en dessous, en auto-édition je publierai pas en dessous de 500 exemplaires. Mmh. Je pense que voilà, il faut croire en soi. Si on croit pas en soi, alors on le fait pas. Mmh. Et aussi simplement en termes d'impression, plus t'imprimes, bah moi ça te revient cher à l'unité. Alors il y a tout un travail de com à mettre en place, je pense, clairement, si on veut atteindre ce chiffre. Mais bon, ça te motive aussi d'avoir un objectif. Et alors en termes de qualité, évidemment, bah jusqu'ici c'est tout ce qui te nourrit intérieurement, quoi. C'est les retours de que j'ai déjà eu, c'est le fait qu'on me dise quand est-ce que tu commences le deuxième.
Ah oui, parce que il y a peut-être une suite.
Oui, il y aura une suite.
Déjà, c'est imaginer qu'il y a une suite.
Donc ça c'est j'ai une amie qui a dit récemment en parlant du livre de mon roman qu'elle avait lu que elle n'a pas l'impression que c'était écrit par moi, dans le sens où ça aurait pu être écrit par n'importe qui, n'importe quel auteur. Et donc ça, c'est un des plus beaux compliments qu'on puisse faire, je crois.
Et tu imagines ça, de multiplier par au minimum 500 personnes?
Ah, mais je suis nourrie, pleine de cœur.
Mais c'est bon de rêver. Et surtout, j'entends c'est bon de rêver, mais c'est aussi bon et pertinent et judicieux de se donner les moyens d'accéder à son rêve, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu parles de stratégie, t'as pas dormi il y a deux jours, parce que inévitablement on rentre dans la période de relecture. C'est essentiellement là que ces questions elles commencent à être encore plus vivaces, quoi. Et je trouve que ce que j'entends dans le message que tu dis, c'est déjà, j'ai mis le point final à mon roman, premier sentiment d'accomplissement qui est déjà pur et bon et beau, mais ensuite il y a la suite, justement, et j'entends, je me donne les moyens, quoi. Mais alors, ça veut dire quoi ? Que tu vas quand même le soumettre à... Tu vas l'envoyer à des maisons d'édition ? Ou tu vas directement en auto-édition ? Aujourd'hui, tu te dis quoi, là, maintenant ?
Ça, je ne sais pas encore. Franchement, je vais encore peser le pour et contre des deux parties. Ce qui m'ennuie beaucoup dans l'édition, c'est que je l'ai encore lu dans un article la semaine dernière, c'est qu'il faut parfois des mois avant d'avoir une réponse.
Ouais.
Et donc j'ai peur que ce soit autobloquant par rapport à un élan qui est là, qui est l'envie que ça aboutisse, et que si on attend 3 mois qu'on n'a pas de réponse, qu'on envoie éventuellement une autre, qu'on n'a pas de réponse, que ça puisse être décourageant aussi, en fait, cette attente. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'ennuie dans l'édition. C'est aussi la perte de contrôle qui m'ennuie. Donc j'ai envie de travailler avec une illustratrice pour ma couverture, que je connais, qui est au courant... je choisis, et j'ai peur qu'on m'impose d'autres codes. Voilà, de parler plus que qualité de contrôle et au niveau de la communication aussi, éventuellement, du format. Voilà.
C'est intéressant cette idée de contrôle et de perte de contrôle parce qu'elle peut dire tout et son contraire. Quoi. Contrôle, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait comment justement cet objet final on veut l'offrir aux autres, avec les conséquences que ça aura en fonction des choix qu'on a fait. Ou alors perte de contrôle et il y a là, le truc ne m'appartient déjà plus et pour le meilleur ou pour le pire. Quoi. Voilà. Mais ça, on en reparlera dans quelques mois, j'espère. Ce serait sympa de pouvoir même trinquer, tu vois, à la première vie, à la naissance, à la première édition. Je dis la première parce qu'il y aura de rééditions peut-être après. Je repense à cette histoire de Baptiste et d'Éléonore, à cette histoire d'amour où il y a déjà 5 lectrices conquises, bêta lectrices, elles sont en train de lire quelque chose qui est toujours en mouvement, en travail. Je pense à ces femmes qui lisent et qui ont bon. Je sais pas si tu vois, je vais en venir.
Je crois, oui.
C'est pas qu'une histoire d'amour platonique, quoi. Donc, moi, j'ai aussi envie de te demander... tu as un talent, je le dis vraiment avec mon point de vue très personnel, mais qui a été aussi validé par d'autres filles et femmes. Tu as un talent pour vraiment écrire, créer une atmosphère autour des scènes sensuelles, sexuelles, érotiques. Alors raconte-moi un petit peu comment on fait pour écrire ces scènes, parce que c'est pas donné à tout le monde de bien les raconter. Je pourrais, mais je vais pas blâmer, je vais pas sortir des noms et faire du name dropping, mais il y a des auteurs publiés qui n'écrivent vraiment pas bien les scènes d'amour et de sexe. Donc toi, il y en a plusieurs, il n'y a pas que ça évidemment, parce qu'il y a tellement d'autres choses dans cette histoire, dont le mystère, dont la relation et le jeu, mais il y a des scènes érotico-sensuelles incroyables. Comment on écrit ça? Dans quel état d'esprit? Comment on se prépare? Comment on fait ça?
Comment... En fait, c'est un peu comme tout le reste. C'est pas quelque chose que je choisis quand j'écris, parce qu'en fait, j'écris ce qui se passe dans l'histoire de mes personnages, qui n'est pas quelque chose que moi j'ai choisi, qui est quelque chose qui aurait été plus ou moins prédessiné, préécrit par un sens supérieur, mon imagination. Comment on écrit ça avec des mots,
le choix des mots,
avec de l'imagination, avec des souvenirs, avec des sensations,
des fantasmes,
des fantasmes, aussi. Oui, bien sûr.
J'entends, je lis le fantasme aussi,
oui, bien sûr. Même si on est toujours nouveau dans le côté réaliste, donc il y a pas, on n'est pas dans du sadomasochisme qui n'arrive peut-être à personne, où on est vraiment dans des scènes vraiment réalistes qui peuvent arriver dans la vie de couple, je pense de tout le monde en fait. Mais c'est quelque chose effectivement qui m'a sorti. Je ne me suis même pas posé la question, mais que je n'ai pas eu envie non plus de cacher ou d'édulcorer, parce que le sexe, ça fait partie en fait d'une relation de couple, ou d'une relation seule avec son corps aussi.
Oui, parce qu'il y a de tout. Hein. Il y a vraiment tous les aspects de la sexualité qui sont exposés. Seul ou avec quelqu'un, seul avec quelqu'un dont on est amoureux, seul avec quelqu'un où on a juste besoin d'échanger. Quoi. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je me souviens d'une conversation qu'on a eue et tu me disais, mais ça aussi et surtout ça, je dois écrire du vrai, quoi. Je dois écrire des choses qui font vrai. Et je pense que c'est peut-être ça dans les personnes qui ont déjà envoyé leur retour, que ce soit tes bêta-lectrices, des personnes du cercle de l'écriture dans lequel on est, etc. En l'occurrence, les retours sont unanimes. c'est que je pense que le succès, la saveur que ces scènes ont dans l'oreille, dans la lecture de ces personnes, c'est qu'elles font justement vrai et qu'on peut toutes s'y retrouver ou avoir envie de revivre ou vivre ou connaître ça. Donc, je pense que tu crées aussi des atmosphères très particulières autour des personnages, etc. Est-ce que parfois tu dois quand même t'arrêter et réfléchir comment j'écris ces scènes? Ou en fait, comme tu dis, ça vient.
C'est quand même fluide, oui, chez moi, comme le reste. Et c'est ça qui est agréable. Et on en a parlé aussi au tout début, quand on a fait du coaching ensemble. Tu m'as demandé, qu'est-ce que tu veux? Je dis, j'ai envie que les gens ressentent des émotions. Ouais. Et donc, à travers les scènes de sexe et des lectures à voix haute, en cercle ou de mes lectrices, elles ont plus ou moins tout dit à un moment donné. Salut, je vais voir mon mec. Ça voulait dire que les sensations, les émotions, elles étaient ressenties quelque part, en tout cas, dans ces scènes-là. Et donc, mais c'est cool qu'elles s'y reconnaissent, qu'elles s'y retrouvent. Et une lectrice m'a dit aussi, ça doit être super dur, en tout cas, d'écrire ça. Mais en fait, non. Enfin, chez moi, ça vient assez naturellement, pourtant. Donc,
Et tant mieux, et heureusement. Je veux dire, c'est aussi quelque chose de très empowerment, très... c'est quelque chose qui donne beaucoup de puissance à une femme, je trouve, de pouvoir aussi... comme toi, de manière décomplexée, assumée et naturelle, et pas réfléchie, calculée, de pouvoir relater, écrire tout ça quoi, dans la vie de femme et d'homme, parce que c'est le point de vue de l'homme aussi. Et ça qui est savoureux aussi, c'est que parfois on voit aussi ce qui se passe dans la tête et dans les sensations d'un homme. Je trouve ça, je pense à ces autrices de romans érotiques, je pense même à des femmes comme Anaïs Nin, etc. C'est des grandes figures qui, quand elles écrivent là-dessus, on sent qu'il y a quelque chose de puissant autour d'elles, quoi. Donc tu te sens puissante ou pas quand tu nous lis ces scènes?
Mais j'avoue qu'effectivement, quelque part, le fait de les lire, surtout en lecture à voix haute, et de voir vos réactions, et de dire, en fait, j'ai créé avec mes mots un sentiment de désir chez d'autres femmes.
D'envie.
C'est vrai que c'est assez puissant parce que c'est fou. Après tout, moi, je ne suis pas l'homme qui suis nue devant elle. Je n'ai tout ça qu'avec mes mots, et pourtant, parfois, l'effet est presque comparable, à mon avis.
Il y a plusieurs éléments dans ce que tu amènes. Déjà, la lecture à voix haute. Il y a le fait que ce soit dans l'instant, et c'est peut-être ça aussi, c'est que qu'on le lit silencieusement chez nous, quelque part dans notre maison, et qu'on soit titillé, moustillé, c'est dans l'instant, mais quand tu es dans lecture à voix haute, c'est dans l'instant, en présence d'eux. Donc effectivement, c'est quelque chose de très particulier à vivre. Et à côté de ça, j'entends aussi que ça donne envie d'eux. Et moi, ça me rappelle cette notion qui est super importante, que ce soit en écriture ou en bibliothérapie, c'est que le pouvoir du mot, quoi. Et même la pragmatique des mots, c'est-à-dire, au niveau linguistique, les mots mettent en action, ou amènent à l'action. Donc là, on est vraiment dans la pragmatique.
C'est vrai,
quoi. Et donc, et toi? Alors là, petite confidence, je te fais rougir. Ça va, on est derrière un micro, on est caché, mais... De ton côté, et tu dévoiles ce que tu veux dévoiler, évidemment, mais quand toi-même, tu es dans l'écriture, alors oui, ça vient de toi, et c'est déjà surprenant ou empowerant d'être dans l'instant, tu relates ces scènes hautement sensuelles, sulfureuses. Qu'est-ce que ça suscite en toi aussi, quoi? J'imagine qu'à un moment donné, ça devrait aussi te dire, bon, là, je vais faire mon clavier, ou qu'est-ce qui se passe?
Ah, mais oui, mais c'est exactement ça. J'écris souvent quand je suis toute seule, et c'est parfois très frustrant. Et quand on se relit, quand je relis ces scènes et que moi-même ça me fait toujours plaisir de les lire, je me dis, ah ben c'est que c'est gagné en fait. Ouais, si moi ça me fait plaisir, ça doit faire plaisir à d'autres en tout cas.
Carrément. Je pense aussi à quelque chose, ça me traverse vraiment dans l'instant comme ça, c'est pas préparé, mais on lit beaucoup d'articles sur surtout les générations millennials, Gen Z, etc., où en fait les jeunes ont de moins en moins de vie sexuelle réelle. Et c'est prouvé, et c'est étudié, et surtout avec ce monde digital, numérique, et alors le Covid à mon avis n'a pas aidé les choses. Et ces moments de confinement, mais ce qui est très intéressant pour dire la pragmatique du mot, c'est que amène l'écriture, la lecture aussi, quoi. Ça va probablement ramener plein de femmes dans leur libido, je te le souhaite en tout cas.
Et tu en parlais, je pense que la lecture à voix haute, même dans le couple, ça peut être vraiment quelque chose qui peut marcher. Alors moi, j'ai jamais lu d'extrait de mon roman à mon mari parce que je pense que son jugement est tellement important que j'ai peur de le lire devant lui, mais je crois que c'est quelque chose que je devrais faire. Peut-être que ça pourrait lui plaire.
La bibliothérapeute qui en parle en formation, effectivement, je confirme que c'est vraiment quelque chose de très, très positif aussi dans la complicité, dans la relation du couple. Mais tu évoques ton mari, et du coup, moi je pense aussi entourage, mari et autres. Comment tu te projettes? Vous raconter une histoire d'amour, c'est une chose. Quelque part, on pourrait se dire qu'il n'y a pas d'autocensure, vu que tu ne racontes pas un récit de vie personnel. Je sais que dans beaucoup de coaching que j'ai, c'est la question de je dévoile un récit de vie où je suis acteur ou actrice, et le problème de la censure, l'autocensure arrive à un moment donné parce qu'on pense à l'après, ce dont on vient de parler, édition, auto-édition, en tout cas l'objet dans les mains de quelqu'un, et c'est souvent là que ça bloque l'écriture. A priori, c'était pas le danger, j'écris une histoire fictive, une histoire d'amour, mais voilà, ces scènes hautement érotiques interviennent. Je pense à ton père, je pense à ta mère, ton mari, une collègue, tu vois, je te mets vraiment en scénario catastrophe là, mais... ou pas, justement, comment tu envisages cette lecture, et comment elle est reçue, et comment tu vas être perçue par rapport à ce... Pour moi, c'est un talent, mais ce talent que tu as, mais comment tu imagines la suite avec ces gens dans leur regard?
C'est vrai que tu as parlé d'assumer tantôt à un moment donné, et c'est clair que c'est une question. Si je le publie, que vont penser les autres? Mais que ce soit pour cette scène-là ou tout simplement la nature du récit, mais particulièrement pour cette scène-là, c'est clair. On pense à ses parents, on pense à ses clients. Moi,
professionnellement.
Oui, dans mon cas. Mais après, en en parlant un peu de ses craintes autour de moi, on me dit ça va quoi, on est en 2021 quand même. Ça peut écrire sur le sexe sans être jugé. Puis on sait, t'as
30 ans, ça va, tu vis des scènes de sexe dans ta vie, tu, tu en écris qui sont totalement fictives, effectivement, mais donc c'est pas quelque chose qui va encore être tabou. Et le fait d'en parler même avec au cercle littéraire ou ici dans le podcast, ça oblige une part de moi à assumer.
C'est des petits entraînements.
Oui, et à se dire, ben, en fait, il faut le faire. À un moment donné, il ne faut pas se bloquer parce que dans ton récit, il y a quelques scènes érotiques. À un moment donné, ça... l'histoire va au-delà de ça, et même s'il y a ça, fuck, quoi, on est en 2021.
Exactement, fuck, on est en 2021. Ben ça, franchement, c'est le message. Et ici, d'entendre qu'on te l'a déjà envoyé, ce signal-là, c'est un bon petit échantillonnage des réactions que tu pourrais avoir par la suite. Ça te rassure quelque part, ou t'en avais pas besoin, tu t'en foutais quand même?
Si, c'est quand même rassurant, et aussi le fait que les filles du cercle soient encourageantes par rapport à ça et envie d'en entendre et le soutiennent, je pense que ça donne une validation aussi quand même quelque part.
Bien sûr, ouais. Et franchement, bon, ça reste mon interprétation assez subjective, mais c'est quand même l'expérience aussi qui parle. Entièrement validée, entièrement méritée, quoi. Je veux dire, c'est vrai que pour avoir lu beaucoup de choses, hein, en bonne bibliothérapeute, c'est du bon domaine, c'est bien calibré.
Merci. Sans jeu de mots, là,
oui, j'étais en train de dire, ça y est, hello, t'as choisi le mot qu'il faut. Ça va déraper, comme à chaque fois. Mais ça, c'est le problème, on a tous à un moment donné, dès que tu nous mets du côté lubrique, libidineux, c'est parti. Mais c'est pas grave, fuck, on est en 2021. Justement, je pense, écriture, tu as évoqué, j'écris seule, voilà, et même ces scènes, ça peut être un peu frustrant, voilà, j'écris seule, etc. Mon mari n'est pas tout prêt, quoi, je rigole, mais ça me fait penser aussi ton rituel d'écriture, parce que allez, on te surnomme quand même un peu la Speedy, hein, la Speedy Gonzalez dans le groupe d'écriture. Tu l'évoques depuis plusieurs minutes là, ça vient naturellement, c'est fluide chez moi. Mais j'entends aussi que tu es indépendante, je sais que vous avez rénové une maison, vous êtes, tu cours partout, quoi, tu fais mille trucs. Comment tu écris? À quel moment? Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent des questions qu'on a envie de savoir dans ce podcast, on a envie d'avoir ces réponses. C'est des choses qu'on m'a envoyées plusieurs fois, c'est... quel est le rituel et comment on s'y met réellement? T'as pondu 400 pages, comment on fait, quoi?
C'est vrai qu'au début, ben, j'ai parlé du smartphone, ça arrivait un peu comme ça, je l'écrivais quand j'avais un moment libre dans mon bain, mais, par exemple quand j'étais toute seule, donc, en voiture, un rendez-vous médical dans une attente, en fait c'était un peu ça. Et puis je suis passée quand même, je crois que sur ma tablette, je suis passée sur tablette, c'est quand même un peu plus confortable en tout cas pour tout ce qui est mise en page. Et donc selon chez moi, c'est souvent le dimanche. Dans un premier temps, soit le dimanche matin pendant automoto. Donc,
j'ai mon moment de ben voilà, c'est clair.
Les rares dimanches après-midi où voilà, on a eu une après-midi en famille et puis tout le monde est reparti, donc on a un peu de temps, c'était un peu ça. Et puis sont venus les cercles, donc là je passais plutôt à du moment en soirée. Mais c'est vrai que ça peut paraître d'être compliqué aussi quand on vient en couple de se dire à un moment donné, bon, désolé, je regarde pas une série avec toi parce qu'en fait j'ai écrit. Donc c'est, comme tu dis, j'ai beaucoup d'autres activités seule, donc j'ai déjà pas mal de choses dans ma vie et de moments que je consacre à moi-même. Donc c'est vrai que quand je suis à la maison, ben, on fait aussi d'avoir une vie de couple. Maintenant, donc je le fais dans les cercles. Et comme je suis indépendante, j'ai aussi la liberté de pouvoir me dire parfois, ben, en fait, je n'ai pas envie de travailler ou je pense à autre chose. Et donc je me consacre du temps dans ma plage horaire de travail pour faire ce qui est du loisir, à la base, l'écriture du roman, mais qui peut aussi être considéré comme du travail.
Oui, une forme de travail, indéniablement. Mais est-ce que tu évoques cette journée, cette semaine d'indépendante, où tu dis, bon, là, je pourrais travailler, je pourrais écrire des mails, machin, et que tu bascules dans l'écriture, est-ce que c'est switch off, ça bascule tout de suite, ou il faut une petite préparation, il faut... C'est pas toujours facile, hein, parce que tu sors d'un rôle, tu sors d'une peau pour rentrer dans une autre. Comment ça se passe pour toi?
Mais moi, j'ai un cerveau qui a toujours eu la capacité de switcher très facilement d'une chose à une autre. Ce qui tombe bien, parce que comme j'ai y a pas mal de clients dans mon boulot, quand je vais passer d'une chose à une autre, bah, j'ai assez facile de me replonger dans ce qui fait. Et en tout cas, pour le processus d'écriture en lui-même, c'est me replonger toujours dans le chapitre précédent. Ça, c'est sûr, j'oublie au moins un ou deux chapitres, suivant la longueur du chapitre. Ça me permet en même temps de parfois corriger deux, trois petits couacs et de me replonger dans les personnages. Parfois, j'ai remonté plus haut. Comme on passe d'un personnage à un autre, il y a des temporalités qui sont parfois un peu décalées, donc j'ai parfois les plus hauts. Mais c'est clair qu'il faut toujours, moi, que je me replonge dedans pour pouvoir continuer la suite. à ce moment-là, nature du récit, ben, soit je sais plus ou moins dans quel sens je vais, parce que même si tout est fluide et assez naturel, on a dû mettre quelques balises, parce qu'à un moment donné, il faut savoir quand même plus ou moins quand on finit l'histoire.
Surtout qu'après 2 ans d'écriture, on n'est plus à 15, 20 pages ou 50, quoi.
Ah non, non, non.
Les balises, elles sont importantes.
Oui, oui. Et donc, mais ça vient en général naturellement, et parfois pas comme je pensais.
Ouais.
Parfois, je pense à écrire quelque chose, et en fait, non, c'est quelque chose d'autre, d'autre qui sort. Quoi.
Ah oui, oui, oui. J'aime bien cette idée de devoir relire un petit peu plus haut. Moi, j'amène maintenant cette image progressivement dans mes coachings, c'est le scaphandrier, quoi. Pour vraiment pouvoir te dire, j'écris à nouveau fluide, net, et surtout quand il y a un petit temps où tu n'as plus écrit, c'est vraiment de redescendre en profondeur, lentement, dans le récit. Et la meilleure chose, à mon sens, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est relire. Donc ça prend du temps d'écrire, parce que ce n'est pas que les heures où tu écris. Tu dis parfois, je vais relire encore plus haut, ça veut dire parfois, ça m'est déjà arrivé aussi, relire une heure, parfois, avant de replonger dedans. Tu valides cette idée du scaphandrier, tu descends un petit peu dans... Tu redescends dans les profondeurs de ton récit.
Oui, c'est vrai. Et dans la lecture, quand tu relis, parfois, tu rajoutes un petit peu des choses au-dessus, ouais. Tu modifies. Donc finalement, tu ne vas pas écrire beaucoup de pages nouvelles, parce que tu auras travaillé d'anciennes, mais après, ce n'est pas grave. C'est un travail qui doit de toute façon être fait.
Ça reste du travail, exactement.
Donc ça reste du travail.
Oui, 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 carrément. C'est chouette. Et ce n'est pas pour faire la compète des minutes, parce que chaque personne écrit vraiment à sa façon, et d'autres, c'est lent, et d'autres, c'est rapide, etc. Mais est-ce que tu as eu conscience dans ton processus d'écriture en 2 ans que le temps consacré à l'écriture a évolué? Est-ce qu'avant c'était un petit quart d'heure et puis après plus facilement 2 heures? Ou comme si ton muscle d'écriture était travaillé? Ou c'est pas du tout ça? Sur 2 ans d'écriture, ça a toujours été la même façon de faire?
Non, non, parce que déjà pas le même support, comme je disais. Et puis c'est vrai qu'au début, c'était un peu quand j'avais le temps, parfois entre 2 trucs. Mais ici, quand je m'y plonge, il faut au moins 1 heure, quoi.
Ouais.
Si j'ai pas 1 heure, je prends pas le temps de m'y replonger.
Mm-hmm.
Ça clairement, parce que quand on est dedans de manière continue, c'est quand même plus facile de continuer, d'avancer, sauf quand il y a blocage, très peu chez moi, puisque ça coule, ouais. Mais ça peut être des blocages émotionnels, quand ça m'est arrivé dans une scène un peu plus dure, et là je me suis dit, en fait je peux plus continuer, j'ai donné un temps off après cette scène, donc je vais me mettre sécher du linge,
ouais.
10 minutes, un quart d'heure, et je suis revenue pour passer à un autre personnage, une autre temporalité, à une autre scène,
mm-hmm.
Mais ça arrive qu'il y a des moments où, en tout cas, on doit s'arrêter, quoi.
C'est marrant, parce qu'au moment où je t'écoutais, je pensais, j'ai envie de lui demander si elle a connu des blocages, et j'entends le mot blocage, je te jure, au même moment, parce que depuis tout à l'heure, on parle de fluidité, rapidité, clarté, on entend un truc très spontané chez toi, très naturel, comme tu dis, j'ai toujours écrit, donc voilà, mais je me dis, est-ce que c'est aussi dreamy, quoi, tu vois, est-ce que c'est aussi easy? Et du coup, tu viens d'évoquer quel genre de blocage et qu'est-ce qui se passe quand il y a un blocage. Est-ce que tu peux un peu étirer cette petite évocation que tu viens de faire de ces fins de blocage?
Donc, tout est fluide de base. De base, c'est fluide et naturel. Quand il y a un blocage, je m'arrête, peut-être simplement. S'il y a à un moment donné une question qui se pose, je referme l'écran et alors je laisse mijoter. Je laisse ça quelque part dans mon esprit, et alors ça m'empêche parfois de dormir, ou ça vient peut-être quand je suis dans ma douche en train de réfléchir à quelque chose.
Ah, la douche, le bain, c'est génial.
Ou autre chose, et là, c'est un moment où on se dit, tiens, la plupart du temps, c'est le personnage qui impose son histoire, qui m'impose son histoire, mais il y a des fois, il y a des choix à opérer.
Mm-hmm.
Donc, tiens, il peut réagir comme ça ou comme ça, et donc ça va dire quelque chose de lui-même, s'il choisit une ou deux options, cette option ou cette option. Qu'est-ce que j'ai quand même envie d'influencer pour le reste de l'histoire?
Tu restes un petit peu le marionnettiste au-dessus quand même.
Quand même, oui.
Ouais, la marionnettiste. Est-ce qu'il y a eu des blocages qui sont plutôt venus vraiment chercher quelque chose de difficile, de confrontant? Là, je pense plutôt écriture, thérapie ou pas. C'est oui ou c'est non, hein, parce que voilà, chaque projet est différent. Mais est-ce qu'il y a des moments où toi, tu t'es sentie dans une situation où ça va vraiment... aller chercher quelque chose en toi, ou que tu dois aller chercher toi-même en toi pour te dire on y va, on continue, quoi. J'entends ça régulièrement, mais là j'entends que tout est assez...
Oui, pas trop chez moi, parce que peut-être parce que c'est de la fiction et que c'est du feel good et que c'est peut-être parfois un peu plus superficiel sur certains points.
Ou pas.
Mais je pense que j'ai assez facile de parler de mes émotions ou de les écrire en l'occurrence.
Mm-hmm.
Donc c'est quelque chose que moi j'arrive à aller chercher. Et je sais que c'est bon pour moi de le faire. Donc j'ai pas trop de problèmes, tu le vois aussi en général dans des
écritures.
Non, mais dans le sens où que peu importe la thématique, j'arrive à m'exprimer et j'ai en général pas de problème à la partager en fait,
c'est ça,
à voix haute. Mm-hmm. Donc, c'est pas trop de blocage émotionnel, même s'il y a des émotions qui sont ressorties. En tout cas, rien de difficile à accoucher, en tout cas.
C'est une belle image. C'est accouchement, c'est un mot qui revient souvent en écriture. Et tous ces bébés qu'on écrit et qu'on met au monde. Écoute, c'est très honnête de ta part. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ton interview, c'est que ça amène pluralité des plumes, des écrivains, des écrivaines. Ça veut pas dire non plus nécessairement qu'écrire, c'est douloureux tout le temps. Ou un petit peu parfois, ça peut être juste jouissif. Excuse-moi, là j'ai vraiment choisi mon terme, consciemment. Jouissif, jubilatoire et un gros moment de kiff, quoi. Donc moi c'est ce que j'entends vraiment, c'est quelque chose de très kiffant pour toi. Et je pense que ça devient kiffant pour aussi celles qui y ont accès pour l'instant, et les suivants et les suivantes. Est-ce que pour toi, écrire, c'est juste écrire? Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui se passe, si tu veux résumer? Est-ce que c'est bêtement, simplement écrire?
C'est jamais simplement écrire. Écrire, c'est partager. Écrire, c'est des émotions. Écrire, c'est vivre, c'est s'évader, c'est avoir d'autres vies, c'est comprendre. Mm-hmm. C'est là, très spontanément, voilà toute la panoplie de mots qui me viennent par l'esprit. Parce que je crois que quand on écrit même de la fiction, on se comprend soi, on partage des émotions ou des vécus. Quand c'est le cas, c'est jamais juste écrire. Mm-hmm. Parce que, d'ailleurs, prenez un livre et lisez donc, ce qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous dire, ce gars, il a juste écrit. Non, vous ressortez avec forcément des sentiments, des sensations, quelque chose. Je pense que toute personne qui écrit, quand elle a écrit, ne se dit pas juste, voilà, c'est tout, j'ai écrit. Non, on n'écrit pas pour écrire. On écrit parce qu'on a besoin aussi, parfois, d'écrire, parce que ça nous aide.
Ça nous fait plaisir. En tout cas, j'entends écrire, c'est vivre, et c'est faire vivre. Et évidemment, tu fais vivre des personnages, et puis tu viens faire vivre les personnes qui lisent, parce qu'en l'occurrence, avec tes histoires, on se sent très vivant, très vivante. Du coup, ma dernière question, enfin j'en ai encore deux petites, parce que là j'entends une autrice qui maintenant est quand même expérimentée, et c'est fini. La première partie, le point final à l'écriture, c'est déjà une première victoire. Dans ce processus-là, avec qui tu es, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans un projet ou qui réfléchit ou qui peut-être a envie d'abandonner après 20 pages? Quel conseil que tu pourrais donner spontanément, comme ça?
Peut-être de ne pas réfléchir, justement. Je pense que peu importe ce qui est fait après de ce qu'on écrit, peu importe si on écrit une histoire ou pour soi ou... En fait, écrire, ça fait du bien, mais en général, si ça peut faire du bien aux autres, si on pense que ça peut faire du bien aux autres, tant mieux, mais d'abord, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Donc, il ne faut pas réfléchir et le faire. Et je pense que tout le monde peut être auteur ou autrice. Du moment où on écrit, rien n'est mauvais. Mm-hmm. Tout est bon.
Écoute, moi, je vais plus soyer, parce que c'est un peu le mantra du mot qui délivre, donc je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des mots pour toi, en toi, quand tu les lis, tu les vois, ou tu les écris? Est-ce qu'il y a des mots qui délivrent?
C'est plutôt des mots entendus qui ont permis d'aboutir à ce projet. Je suis encore pas là pour te jeter des fleurs, mais quand même. C'est un truc que tu as dit plusieurs fois, c'était « c'est ok ». Tout simplement, moi je trouve que cette phrase-là, c'est une liberté. En fait, on se dit « ah bah oui, c'est ok, en fait, c'est ok d'écrire, écrivez sur ce que vous voulez,
c'est simple ». Et tout devient plus simple.
Tout à fait.
Merci, c'est la première fois. En plus, j'entends que ça vient de moi, mais je vais vraiment être dans une modestie grande parce que c'est ok, on l'entend dans beaucoup de thérapies, on l'entend dans beaucoup de. Mais merci d'amener ça parce que c'est ok, c'est tout simple. Et quand on l'entend à chaque fois, tout est bon, quoi, et simple.
Ça fait du bien de l'entendre.
Ça fait du bien. Donc c'est ok, on va le répéter une dernière fois.
C'est ok, oui.
Et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est ok d'écrire et d'y aller et de ne pas réfléchir pour te reprendre. L'interview à ton image, simple, naturelle, légère, un tantinet coquine. Merci beaucoup de m'avoir fait ce plaisir-là.
Avec plaisir.
Et bonne chance, bonne merde, tout ce qu'on peut souhaiter pour la suite de ton roman.
Merci beaucoup.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.